Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, vous le savez, tous les médias et toutes les formes de culture. Je le dis souvent, je le dis tous les jours, ce ne sont pas des mots en l'air. Nous allons justement vous faire découvrir le futur d'Internet. Pas dans un siècle, mais dans 5 ans, maxi, et dans 10 minutes, maxi. Notre infomédia va donc plonger dans ce qu'on appelle le métaverse, c'est l'avenir d'Internet. Le web 3.0, où toutes les frontières auront disparu entre les mails, le web, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Même vos amis auront un avatar que vous croiserez avec des lunettes 3D. Facebook annonce la création de 10 000 emplois en Europe pour le développement de cette plateforme et ce n'est que le début. Et puis nos invités, la chanteuse Anne Silla, elle est bien réelle et c'est la grande gagnante de The Voice All Star. C'était samedi soir en direct sur TF1. Elle sera avec nous dès ce lundi matin. Enfin, le médecin, diplomate, ambassadeur, romancier, académicien, je reprends mon souffle, Jean-Christophe Ruffin pour son dernier roman Les Flammes de Pierre chez Gallimard. Il y aura également son portrait d'avant les célébrités avec Lisa Marie Marquez. Vous retrouverez également Bruno Donnet, Marc-Antoine Lebray et Louise Bernard pour l'actu des médias et les audiences télé d'hier soir et du week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Des retours, le retour de The Voice All Star, oui déjà. Le retour des images de la Ligue 1 sur TF1, le retour des accusations contre Facebook. Et puis aussi le décès d'un acteur de Friends et de Belle Harangue. Oui, vous verrez ce que c'est.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé TF1, le film Alita Battle Angel. J'ai fait attention à mon accent anglais, ah puisqu'il paraît que la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. 3 840 000 téléspectateurs, 19,3% de part d'audience devant TF1. Deuxième, France 2 avec les aventures de Rabbi Jacob, plus facile à prononcer. 3 250 000 téléspectateurs, 14,6% de part d'audience. Donc c'est 500 000 d'écart, hein. C'est assez honorable pour France 2. Troisième, M6, très en forme. Capital proposait un nouveau numéro, 2 800 000 téléspectateurs, 13,4% de part d'audience, son meilleur score depuis le début de la saison. C'était un magazine sur les secrets des champions du hard discount.
Et samedi soir ?
Alors, samedi soir, c'était la finale de The Voice sur TF1. Ça a été le programme le plus vu, 3 750 000 téléspectateurs devant la victoire d'Anne Silla, que vous recevrez tout à l'heure. Ouais. Moins bien que la finale de The Voice Kids un an plus tôt, mais avec une très bonne part d'audience sur la cible commerciale, la fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans, chère aux chaînes privées, 29,5%. France 3 arrive deuxième avec une rediffusion de Commissaire Magellan, 3 280 000 fidèles. Et puis France 2, sous les 2 millions, avec les enfants de la télé, 1 890 000 téléspectateurs devant le divertissement.
Et on passe à vendredi soir. Quelle chaîne a fini en tête des audiences ?
France 2 est très largement près de 3 millions de téléspectateurs de plus que sur TF1.
De plus ?
Alors, mais de plus, quel est l'un des rares, voire seul programme capable de générer un tel écart ?
Je le sais, mais dites-le.
Capitaine Marleau, évidemment. Désormais sur la 2 et le vendredi soir, la série a écrasé la concurrence en attirant 6 290 000 téléspectateurs contre 3 300 370 000 sur TF1, qui était donc devant Danse avec les Stars, le concours de danse qui réalise sa moins bonne audience de cette saison, mais là aussi très forte sur les femmes responsables des achats. Et puis troisième place du podium, désormais habituelle pour NCIS sur M6, 2 millions de téléspectateurs devant l'épisode inédit.
Et puis un mot d'audience un peu particulière, celle de Free qui proposait hier soir une première, diffusait gratuitement les meilleurs moments du Classico au MPSG sur son application Free Ligue 1. Thomas Reynaud, le directeur général du groupe Iliad, de la maison mère de Free, était venu nous l'annoncer ici mardi dernier. Alors le résultat ?
Un record historique de téléchargement de l'application depuis l'annonce, avec une audience multipliée par deux hier par rapport aux journées de championnat précédentes. Plus d'un million de vidéos vues et 3 millions de pages vues.
Culture Média.
On passe au journal des médias avec la version All-Star de The Voice qui s'est terminée samedi soir, vous l'avez dit, mais qui n'a pas dit son dernier mot.
Non, elle reviendra, c'est ce qu'affirme Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1 au journal Le Parisien. Elle reviendra d'ici 2-3 ans, dit-il. La version All-Star de The Voice, pour rappel, elle rassemblait d'anciens candidats du télécrochet. Il en reste de nombreux à contacter, puisqu'en 10 ans, il y a eu des centaines et centaines de talents à participer, de quoi faire d'autres saisons All-Star. Et puis surtout, il faut dire que le concept plaît aux cibles privilégiées TF1, notamment aux femmes responsables des achats de moins 50 ans. Oui, encore elles. Ouais. Très importante pour les revenus publicitaires de la chaîne, mais pas seulement. Ça plaît beaucoup aux enfants aussi, et là aussi c'est important, puisque c'est le public de demain, comme l'a expliqué Rémi Faure au Parisien.
En attendant, il y aura une nouvelle saison de The Voice début 2022, une version classique avec de nouveaux candidats et on connaît désormais le jury.
Oui, ce sera le même que pour la saison précédente, la 9e, hein, je mets celle All-Star à part. Toujours selon Le Parisien, 4 coachs, Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney. C'est la première fois depuis la saison 2 qu'un jury reviendra à l'identique.
On a appris hier soir le décès d'un acteur de Friends.
L'acteur James Michael Taylor est décédé d'un cancer de la prostate à 59 ans. Il incarnait Gunther. C'est un personnage secondaire mais très récurrent dans la série pendant 10 ans. Il avait participé à 150 épisodes sur les 235. C'était le gérant du café Central Perk où on retrouvait toute la bande. Personnage fou, amoureux de Rachel, joué par Jennifer Aniston, sans jamais oser le lui dire. C'était d'ailleurs un des gags récurrents de la série et il avait fini par enfin lui avouer ses sentiments dans l'ultime épisode de la série.
J'ai appris que tu partais ce soir, mais j'aurais voulu pouvoir te dire que je t'aime. Bon, alors je sais pas si ça peut faire changer les projets que tu as, mais j'ai pensé que tu devais le savoir.
Gunther! Je t'aime beaucoup, moi aussi. Pas du même amour que toi, j'imagine. Mais je t'aime.
Jennifer Aniston, qui a d'ailleurs réagi à la mort de James Michael Taylor en partageant justement cet extrait sur son compte Instagram, en anglais, hein, avec un message. « Friends n'aurait pas été pareil sans toi. Merci pour tous les rires que tu as apportés à la série. Et dans nos vies, tu vas tellement nous manquer. »
Un nouveau lanceur d'alerte étrille Facebook.
Facebook à nouveau dans la tourmente après Frances Haugen, dont le témoignage a plongé le groupe dans la tempête. C'est au tour d'un autre ex-employé de dénoncer les pratiques du réseau social. D'après le Washington Post, il aurait livré son témoignage à la SEC, c'est l'autorité boursière américaine. Il reproche à Facebook d'avoir privilégié les profits plutôt que la modération des contenus problématiques. Il aurait ainsi dénoncé le comportement de managers qui minaient les efforts de lutte contre la désinformation, de peur de froisser Donald Trump ou de moins intéresser les utilisateurs. En parallèle, les médias américains ont publié tout le week-end d'autres documents internes révélés par l'autre lanceuse d'alerte, Frances Haugen. En 2020, Facebook aurait eu conscience de la radicalisation de nombreux utilisateurs et du flot de désinformation en lien avec l'élection présidentielle, sans pour autant réagir. Facebook qui a publié un communiqué pour rappeler ses lourds investissements tout de même dans la lutte contre la désinformation. Mais pas sûr que cela soit suffisant ce communiqué, car les révélations pourraient bien continuer d'après un média américain, The Information. Une dizaine d'organisations de presse s'apprêtent à publier d'autres documents de lanceurs d'alerte.
Et est-ce peut-être pour cela Facebook s'apprêterait à changer de nom? Les annonces peut-être faites la semaine prochaine, on en parle dans notre prochain dossier.
C'est plus pour s'axer sur le métaverse,
je crois,
mais vous en parlerez.
C'est avec le dossier. Tout à fait autre chose, TF1 autorisé à diffuser des extraits de la Ligue 1.
Oui, vous l'avez peut-être remarqué dès hier si vous regardiez Téléfoot.
Depuis 14 ans, Téléfoot n'avait plus la possibilité de vous montrer des images de Lille-Brest d'hier, par exemple, ou de Saint-Étienne-Angers de vendredi soir. Eh bien, l'attente, l'absence sont terminées.
C'était dès le sommaire, Grégoire Marmotton. Alors pourquoi cela est-il possible désormais? Grâce à un accord avec la plateforme Amazon Prime Video qui détient 80% des droits de la Ligue 1, TF1 a racheté la partie des droits qui concernait l'autorisation de diffusion d'un magazine le dimanche matin qu'Amazon n'utilisait pas. Le coût de l'opération est, comme toujours, gardé secret. Pour l'occasion, TF1 a renommé d'ailleurs la première partie de son émission Téléfoot Ligue 1 au lieu de Téléfoot Actu. Et chaque dimanche, elle proposera un résumé des temps forts de la Ligue 1.
Culture Box mais les belles harangues ou zarangues, je ne sais pas s'il y a la liaison ou non, des jeunes à l'honneur ce soir.
Harangue, nom féminin, discours solennel prononcé devant une assemblée, une personnalité importante, des troupes. Voilà la définition du Larousse. La belle harangue, c'est une initiative lancée par la Fondation pour l'écriture. Une fête de l'écriture et de la parole pendant 15 jours. Chaque jeune qu'il souhaitait pouvait écrire un texte, puis le déclamer en public. Où est le rapport avec les médias? Le voici. 10 d'entre eux ont été sélectionnés dans toute la France pour participer à une soirée diffusée ce soir sur Culture Box et tous leurs textes sont sur un même thème. Et si, chacun met en avant des valeurs ou des visions différentes. C'est solidarité, bienveillance, égalité des sexes pour d'autres, système éducatif français aussi. Et si on apprenait différemment?
En respectant le thème imposé, et si, les jeunes s'expriment sur ce qui les préoccupe.
Et si le passé aidait à apprendre le futur?
Et si demain, plus personne ne jugeait?
Et si demain, la planète se refroidissait?
Le but, c'est d'emporter le public, hein, de partager son enthousiasme. Ils seront entourés d'artistes comme Tim Dup, Fefe, Ours ou Julie Zenati qui donneront leur avis sur ces discours. C'est ce soir à 21h05 sur Culture Box, présenté par Raphaël Yem.
Ouest France ne publiera plus de sondages politiques avant la présidentielle.
Et le premier quotidien de France préfère miser sur le reportage. Dans un éditorial, le rédacteur en chef François-Xavier Lefranc critique la passion des médias pour les sondages. À chaque élection, on veut connaître le résultat avant même que les Français aient voté. Et il poursuit, ce n'est pas la consultation de panels représentatifs qui redonnera de la vigueur à la démocratie. C'est l'écoute et la consultation de chacun et chacune, d'où ce choix pour le reportage.
Et on se souvient que Le Parisien avait pris la même décision il y a quelques années. Le nouveau patron Jean-Michel Salvatore
2017,
est revenu sur cette décision il y a quelques mois. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour avec cette question. Sera-t-il bientôt possible de se promener, se rencontrer, jouer ou encore travailler dans un monde virtuel? En tout cas, le patron de Facebook y croit beaucoup. Il a annoncé la semaine dernière la création de 10 000 emplois rien qu'en Europe pour le développement de cet univers parallèle qu'on appelle le métaverse. Explication dans quelques instants sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Il y a tout juste une semaine, le géant Facebook annonçait l'embauche de 10 000 personnes, surtout des ingénieurs, en Europe pour bâtir son nouveau projet, le Métaverse. Le Métaverse, en quelques mots, c'est l'avenir d'Internet, un monde virtuel où tout un chacun pourra se promener dans le futur pour rencontrer ses amis, faire ses achats, travailler, jouer ou encore se soigner sur une seule et même plateforme. Mais ce projet est-il viable et l'avenir de notre économie ou simplement un fantasme de milliardaires biberonnés à la science-fiction? Qu'a donc Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, derrière la tête et d'autres avec lui? Bonjour. Bonjour Élise Vignacourt.
Bonjour Philippe Bourneau.
Vous êtes journaliste à Libération. Vous avez notamment écrit un dossier complet sur le métavers cet été qui nous avait passionnés. C'était le 15 août, mais on était déjà rentrés. Bonjour Julien Pillot.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. D'abord, je vais commencer avec vous, Élise Vignacourt. D'ailleurs, vous commencez, c'est votre première radio.
Exactement.
Pour commencer, d'où vient ce mot barbare, métaverse?
Alors, il faut savoir que le mot métaverse, ça vient de deux mots différents. Le premier en grec, méta, qui veut dire au-delà d'eux, et le second qui vient de l'anglais, attention pour l'accent, universe, pour univers. Donc, si on traduit littéralement, ça veut dire aller au-delà de l'univers.
Comme la métaphysique et ce qui est au-dessus de la physique.
Exactement.
Donc voilà d'où ça vient. On sait qu'il a créé ce mot.
Oui, Neil Stephenson, dans un livre de science-fiction qui s'appelle Le Samouraï Virtuel, qui est paru dans les années 90.
Alors concrètement, en quoi ça consiste?
Concrètement, pour vous l'expliquer, le métaverse, un peu comme dans les jeux vidéo, ce serait un monde entièrement virtuel dans lequel on serait immergé et dans lequel on pourrait en fait faire tout ce qu'on fait dans la réalité, entre guillemets, physique.
C'est-à-dire c'est virtuel, mais c'est nous.
C'est ça. Faire travailler, faire du shopping, voir des amis, de la famille, tout ça serait réalisable.
Mais alors, il faut quand même expliquer à quoi ça va ressembler. C'est-à-dire qu'on aurait par exemple notre avatar et on se promènerait dans un grand magasin, mais ça serait nous-mêmes. On pourrait essayer des vêtements, mais notre avatar serait déjà à notre taille. Donc ce serait à la fois comme un jeu vidéo et un truc sérieux. On pourrait faire des achats sérieux, on pourrait s'amuser. Tout est mélangé et il y aurait, si j'ai bien compris, qu'une seule et même plateforme. Julien Pillot, je me tourne vers vous. Pourquoi Facebook s'intéresse-t-il à cette technologie du futur et cette annonce énorme de 10 000 salariés, 10 000 emplois créés en Europe étalés sur les 5 prochaines années?
Bon, il y a beaucoup de raisons à cela, mais on va dire que les principales, ce sont déjà que Facebook, finalement, son cœur de métier, c'est quoi? C'est de connecter les gens, c'est de créer du lien social à travers ses différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Et finalement, un métaverse, c'est l'extension 2.0, si j'ose m'exprimer ainsi, de ce que cet Internet aujourd'hui par écran interposé. Ben voilà, dans le métaverse, ça a été dit, mais vous allez avoir tout un tas d'interactions sociales, une vie économique alternative. Et finalement, il est logique qu'une entreprise comme Facebook, qui propose déjà ce type d'interaction sociale de façon très 1.0 aujourd'hui, s'intéresse à un tel marché qui est qu'une évolution technologique de ce qu'il fait déjà. Et puis, la deuxième raison, qui est peut-être un peu moins connue, c'est que Facebook, en 2014, s'est porté acquéreur d'une entreprise qui s'appelle Oculus. Et Oculus, son cœur de métier, c'est de fabriquer des casques de réalité virtuelle. Or, le casque de réalité virtuelle, c'est aujourd'hui l'outil qui va être utilisé pour pouvoir finalement connecter les personnes que nous sommes à leurs avatars virtuels dans ces fameux métaverses. Donc vous imaginez bien que derrière cette volonté de Facebook de figurer parmi les pionniers du métaverse, c'est à la fois pour ne pas être décroché dans ce qu'il sait déjà très bien faire et qui lui rapporte déjà beaucoup d'argent, et en plus de ça, la possibilité de nous vendre des casques de réalité virtuelle à très grande échelle.
Et en espérant que le prix baisse. Juste un mot sur le casque de réalité virtuelle, c'est formidable quand on fait un jeu vidéo. Moi, j'ai vu des documentaires comme ça, c'est absolument dingue. Mais à quoi ça sert pour aller acheter une pizza avant un match?
Ouh, c'est très bonne question. Alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué à réaliser d'aller acheter une pizza avec son casque de réalité virtuelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des jeux en réalité virtuelle qui s'apparentent plus ou moins à des métavers, comme par exemple VRChat.
Vous dites métavers?
Ou métaverse, alors c'est
et
un peu le débat.
Vous dites du métaverse, on va le prononcer à l'américaine, métaverse. 10 000 emplois créés en Europe par Facebook. Il y a déjà 10 000 salariés de Facebook qui travaillent sur ce thème, sur cette technologie aux États-Unis. Est-ce que Mark Zuckerberg veut abandonner son réseau social, Élise Vignacourt? Il y a des annonces très très fortes qui ont été faites. Il y a le magazine The Verge qui annoncerait un changement de nom. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les infos?
Alors, à quel point il veut vraiment abandonner Facebook? Pour l'instant, c'est compliqué de le dire. C'est difficilement imaginable. En tout cas, ce qu'il a annoncé, c'est qu'il voyait très bien le métaverse comme étant l'avenir d'Internet, tout simplement. Ce qui paraît en soi logique, puisque Internet, quand on regarde son évolution, c'était d'abord quelque chose de service qu'on consultait pour avoir des renseignements, je ne sais pas, des adresses, par exemple. Ensuite, c'est devenu un peu plus dans l'interaction avec des utilisateurs qui pouvaient communiquer via des blogs, des forums. Par la suite, on a eu l'Internet mobile qui nous suivait avec le portable, etc. Donc, ça paraît logique qu'avec le métaverse, l'Internet, on puisse entrer dedans spatialement.
Je vous pose la même question, Julien Pillot, selon vos informations, je rappelle, non je ne l'ai pas dit encore, que vous êtes chercheur à l'INSEC, c'est quoi l'INSEC d'un mot?
C'est une école de commerce qui a 3 campus sur Paris, Lyon et Bordeaux et qui délivre un programme grande école.
Selon vous, que veut faire Mark Zuckerberg? Est-ce qu'il veut tenter de faire oublier ce nom de Facebook qui est entaché de plusieurs affaires et profiter du métaverse pour se refaire, si j'ose dire, une virginité?
Les voix de Mark Zuckerberg sont impénétrables, si j'ose dire. Mais la vérité, c'est que si on y réfléchit bien, Facebook ne serait pas la première entreprise à changer de nom dans l'univers de l'informatique. Google l'a fait il y a quelques années pour créer une entreprise qui s'appelle Alphabet, qui va piloter les différentes activités de Google. Il est possible aussi que derrière la volonté éventuellement de changer de nom de Facebook, il s'agit de créer une espèce de marque ombrelle qui va pouvoir piloter les différentes activités de Facebook. Parce que Facebook est en train de se diversifier. Il l'a déjà fait en acquérant des entreprises comme Oculus, j'en ai parlé tout à l'heure, en acquérant Instagram, en acquérant WhatsApp. Et peut-être que c'est aussi l'astuce qu'ils ont trouvée pour pouvoir tout simplement bien piloter l'ensemble de ces activités très diversifiées en les classifiant en silos.
Je parle de Facebook, mais évidemment, il n'y a pas que Facebook. Pour citer qu'un exemple, Epic Games, qui est une grosse entreprise de jeux vidéo, a levé $1 milliard en avril dernier pour créer un métaverse. S'il y a tant d'investissements, Élise Vignacourt, c'est qu'on peut s'attendre à ce que le métaverse soit dans notre quotidien, dans un futur proche. C'est quoi ce futur proche? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans?
Alors, selon Facebook, ça serait 5 ans. Dire à quel point ce serait un futur proche, moi, je peux pas trop m'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on voit avec Fortnite, qui est le jeu possédé par Epic Games, je vais y arriver, c'est que le métaverse a déjà une forme de réalité avec notamment, par exemple, l'organisation de différents concerts. On a vu Travis Scott pendant le premier confinement, Ariana Grande en août. Là, bientôt, Aya Nakamura. Donc, le métaverse a déjà une forme de réalité au sein de Fortnite.
Et puis, pour mieux savoir à quoi ressemble le métaverse, il y a le film Ready Player One. On vous en fait entendre un son dans quelques instants. On parle du métaverse, ce sont les vrais qui sont avec nous. C'est Julien Pillot, il est enseignant et chercheur à l'INSEC. Élise Vignacourt, elle est journaliste à Libération. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous plongeons dans le métaverse, ce monde parallèle et virtuel dans lequel nous pourrons nous promener dans quelques années. Il paraît que c'est l'avenir d'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le patron de Facebook y croit beaucoup. Il a annoncé la semaine dernière, après 10 000 emplois créés aux États-Unis, 10 000 emplois créés à venir sur les 5 ans en Europe. Si vous voulez savoir à quoi ressemblerait un monde doté d'un métaverse, il faut voir le film Ready Player One de Steven Spielberg, qui était sorti en 2018. Le film, l'action se passe en 2045. Tout le monde se retrouve dans l'Oasis. C'est le métaverse imaginé par Spielberg.
Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
Tu le sens, ça?
Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Halliday.
Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de $500 milliards et aura le contrôle total de l'Oasis.
Nous sommes avec Élise Vignacourt, elle est journaliste à Libération, elle a consacré un long papier, c'était la une d'ailleurs de Libé, le week-end du 15 août, Métaverse, adieu monde réel, la question que vous vous posez. Julien Pilloux, vous êtes enseignant et chercheur à l'INSEC. Est-ce que vous trouvez réaliste ce qu'on voit dans le film de Spielberg? Vous avez pensé quoi de ce film?
Déjà, c'est un film que j'adore parce qu'il y a un côté visionnaire et Spielberg n'est pas à son coup d'essai en la matière, puisqu'on peut se rappeler du film de 2002, Minority Report, qui avait donné beaucoup d'idées à tout un tas d'ingénieurs de par le monde pour construire un futur technologique qui ressemble beaucoup à celui que l'on connaît aujourd'hui. Mmh. Et donc oui, c'est un excellent film. Et effectivement, le métaverse qui y est présenté, l'Oasis, est une espèce de vision fantasmée de ce que pourrait être un métaverse. Mais après des années et des années et des années de développement, et quand je parle d'années, je parle plutôt en décennies. Hein, mmh. Parce qu'avant qu'on arrive à ce niveau d'interaction avec un univers virtuel, il va falloir faire plusieurs sauts technologiques. Et dans un premier temps, on va se contenter d'expériences qui sont nettement plus, on va dire, modestes dans leurs ambitions, mais néanmoins très importantes pour pouvoir avancer.
Vous parlez de sauts technologiques. Le métaverse, c'est partie de l'univers des jeux vidéo, c'est bien ça?
Absolument, absolument. C'est vraiment un fantasme qui est poursuivi par beaucoup de développeurs de jeux vidéo depuis que les jeux vidéo se développent. On pense jeux vidéo en réalité virtuelle pour donner un côté expérientiel et un côté ludique encore augmenté à nos univers en fait vidéoludiques. Et oui, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui les premières tentatives, les premières expériences de type métaverse, toutes modestes soient-elles, soient des expériences qui soient vécues à travers le prisme du jeu vidéo. On a parlé tout à l'heure de Fortnite. Mm-hmm. Bon, on pourrait remonter encore auparavant avec des jeux comme Second Life qui proposaient déjà des oui. sortes de métaverses avec les technologies de l'époque. Hein. C'était vraiment au début de ce siècle où il s'agissait en fait de recréer à travers nos avatars une vie alternative où nos avatars peuvent avoir une vie économique, une vie sentimentale, une vie ludique à travers un espèce de grand bac à sable dans lequel en fait tout un tas de développeurs indépendants peuvent coder certaines expériences, une boîte de nuit, des commerces, etc. Ouais. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment ancré dans l'univers du jeu vidéo et dans l'imaginaire du jeu vidéo.
Pour expliquer ce qui se passe vraiment pour les gens qui nous écoutent, c'est que quand vous alliez sur ces sites, ces jeux vidéo, tout était virtuel. Alors que là, avec le métaverse, vous pourrez aller commander une pizza et il y a quelqu'un qui vous la porte chez vous dans les 20-30 minutes. Il y a juste une chose qui me fait sourire, c'est que si tout le monde va sur métaverse, les parents pourront plus engueuler leurs enfants quand ils jouent trop à la console. Puisque tout le monde sera sur une sorte de console. voilà, vous êtes d'accord avec moi. J'entends à ce rire que vous êtes d'accord avec moi. Le marketing s'empare déjà des univers parallèles. C'est le cas avec Fortnite, puisque vous en parlez. C'est l'un des jeux les plus populaires du monde. Il y a des stars de la musique qui sont produites dans le jeu. Vous l'avez dit, Élise Vignacourt, notamment Ariana Grande, la chanteuse américaine. On écoute un peu. Élise Vignacourt, vous avez vu le concert d'Ariana Grande sur Fortnite?
Moi, j'en ai vu des extraits.
Alors, racontez à quoi ça ressemble.
Bah, c'est hyper impressionnant. On voit la chanteuse qui est vraiment incarnée comme un avatar en tant que telle. Et on voit des joueurs tout autour d'elle qui participent au concert. Et une masse d'effets spéciaux. C'était une expérience assez unique pour les joueurs qui ont pu y assister.
En avril 2020, le rappeur Travis Scott, vous l'avez parlé, ou plutôt son avatar, vous en avez parlé, pardon, son avatar a donné un concert en ligne sur Fortnite. Le concert a été suivi par 12,3 millions de personnes dans le monde. C'est-à-dire que quand il levait la main droite, tout le monde avait levé la main droite, et idem pour la main gauche, tout était en temps réel et il y avait 12 millions et demi de personnes. On imagine que les stars vont avoir un intérêt énorme à se produire sur le métaverse.
Oui, il y a un intérêt économique aussi. Si on reprend une information de Forbes, Travis Scott aurait gagné à peu près 20 millions de dollars grâce à ce concert. Donc effectivement, les stars vont forcément plus ou moins s'y intéresser.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des dérives? Parce qu'on sait comment tout démarre joliment et puis ensuite, il y a plein de choses qui se déroulent très très mal. Je vous entends sourire, Julien Pilloux. Quelle dérive craignez-vous avec le métaverse?
Moi ou Julien Pilloux?
En fait, j'entends les mêmes dérives. Julien et ensuite Élise.
Moi, je pense qu'on peut craindre les mêmes dérives que celles qui existent déjà dans l'Internet tel qu'on le connaît. Je veux dire, les dérives qu'il peut y avoir derrière sont des dérives déjà d'addiction à un univers. Mais ces addictions, elles existent déjà dans l'Internet tel qu'on le connaît. On a même des applications, des voleurs d'attention, on va les appeler comme ça, qui sont programmés de telle sorte à faire en sorte de maximiser votre temps de connexion sur l'application. Elles font appel aux neurosciences pour générer tout simplement des stimuli, générer de la dopamine, en fait, pour faire en sorte que vous passiez un maximum de temps sur l'application. Pourquoi ? Parce que finalement, la valeur que vous avez créée pour l'application va dépendre en partie du temps que vous avez passé dessus. Et en outre, quand vous passez du temps sur telle ou telle application, vous n'en passez pas sur d'autres applications. Vous n'avez pas le temps d'ubiquité. Donc, c'est bon pour vous et c'est quelque part contraignant pour vos concurrents. Mais en fait, globalement, dans le métaverse, on va avoir aussi ce type de problématiques qui peuvent se faire jour. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que des entreprises auraient très intérêt à ce que vous passiez un maximum de temps connecté dans ce métaverse parce que vous avez créé beaucoup, beaucoup de valeur. Et ce faisant, elles vont peut-être créer aussi des mécanismes qui vont vous rendre accro à cet univers.
D'un mot, je pensais à des dérives encore plus graves. On a vu cette jeune adolescente qui s'est suicidée parce qu'elle avait été harcelée sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça peut aller jusque-là, selon vous, le métaverse? Si on a un avatar qui nous ressemble beaucoup et qui se fait harceler sur le métaverse, Élise Vignacourt.
Tout à fait, c'est effectivement une des dérives possibles. On a déjà vu d'ailleurs dans certains jeux de réalité virtuelle des formes d'harcèlement arriver. J'ai oublié le nom du jeu en question, mais où une jeune femme expliquait avoir été harcelée sexuellement, ce qui bien sûr pose des questions très intéressantes parce que c'était pas son corps à elle, mais un corps virtuel qui avait été harcelé. Dans ces cas-là, comment on fait ? Facebook a développé d'ailleurs un jeu de réalité virtuelle qui s'appelle Facebook Horizon, dans lequel ils ont mis en place tout un système pour permettre aux gens de fuir des situations de harcèlement. Ils ont un bouton sur lequel ils doivent appuyer, ils se retrouvent éjectés du jeu en tel quel. Donc forcément, c'est des questions auxquelles il faut penser dès maintenant.
Merci beaucoup pour cet éclairage sur le métaverse. Élise Vignacourt, je rappelle qu'on peut vous lire dans les colonnes du journal Libération. Julien Pillot, je rappelle que vous êtes enseignant et chercheur à l'INSEC. Et pour être complet, je voudrais citer la une du nouveau magazine d'actualité scientifique Epsilon. Bienvenue dans le métaverse, le premier monde parallèle, la couve et beaucoup, beaucoup de pages. Merci d'avoir été avec nous en direct et pour de vrai. Dans un instant sur Europe, on va parler de la finale de The Voice All-Star. Ils étaient 6 à prétendre au trophée samedi soir. C'est Anne Silla qui l'a emporté. Elle sera avec nous en direct dans ce studio. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Anne Silla.
Bonjour.
Faut-il vous présenter, chanteuse pop et jazz reconnue, pas encore consacrée, mais cette fois c'est fait, ça y est. Après une première participation à l'émission emblématique de TF1 The Voice, c'était la saison 4 en 2015, vous avez failli gagner, vous avez perdu en finale. Samedi soir, c'est vous qui l'avez emporté, et pas sur n'importe quelle saison. Pour les 10 ans de l'émission, c'était l'édition All Star, c'est-à-dire toutes les stars, une sorte de best-of des voix qui ont marqué l'histoire du programme. Vous êtes revenu sur scène pour repasser une audition à l'aveugle, je fallait oser. Donc, vous avez gagné. Dans quel état d'esprit vous êtes ce lundi matin ? Est-ce que vous êtes remise de vos émotions du samedi soir et peut-être éventuellement de la gueule de bois ?
Alors, la gueule de bois, il n'y en a pas eu du tout parce qu'il n'y a pas eu, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. J'étais tellement fatiguée que je suis allée au lit direct. Et en fait, comme ça a enchaîné ensuite avec les promos, là, je ne fais que dormir. Quand je ne suis pas ici, bien sûr, là, je suis présente avec toi. Ouais. Mais non, je suis très heureuse, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à la suite, si tu veux. C'est-à-dire que dans notre tête, on se dit...
Vous attendiez à gagner ou pas ? Vous étiez donné comme favorite ?
Je ne m'attendais pas vraiment à gagner dans le sens où ça m'était déjà arrivé d'être considérée favorite et j'avais perdu cette fois-là. Donc, je n'avais pas vraiment ça dans la tête. Et surtout, dans ma tête, c'était qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, samedi soir, c'est fini. Et en fait, c'est que le début. Donc, c'est ça qui est rigolo.
Alors, je voudrais qu'on entende votre réaction samedi soir à l'annonce de votre victoire. Je rappelle que l'émission s'appelle The Voice, c'est-à-dire La Voix. Mais on a l'impression que vous avez presque perdu votre voix. Vous avez une voix blanche, Anne Silla.
Au plus profond, c'est juste que je reviens de loin et que je suis contente d'être là. Vraiment, je suis contente d'être là. Je suis touchée qu'on nous permette encore de... Enfin, qu'on nous permette de chanter, qu'on nous permette de choisir nos chansons, qu'on nous permette de faire... d'arranger aussi nos morceaux, qu'on ait autant de respect dans la musique, qu'il y ait Olivier Schultes qui dirige, que les musiciens jouent comme des dingues. Et je suis émue, je suis contente.
C'est très frappant, non ? Vous qui avez un coffre pas possible, il n'y a rien qui sort.
Là, il n'y a rien qui sort. Bon, en fait, j'étais très émue, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé très doucement, en fait. C'est-à-dire que on m'a dit que je gagnais et c'est comme si j'avais mis 20 minutes à réaliser. Et au bout d'un moment, je me souviens que Nikos était à côté de moi et que je lui disais « Nikos, il faut pas qu'on me filme, je commence à pleurer. » Et puis je commençais à craquer et puis bon, c'était rigolo parce que j'arrivais plus du tout à parler.
Vous aviez préparé ce que vous alliez dire ou pas, comme au César?
Ah non, pas du tout. Oh, bah non, non, mais en plus, on est tellement... En fait, pour
non,
être très honnête...
Vous toute la semaine, vous avez tout le temps.
Oui, mais en fait, pour la semaine, on prépare surtout nos prestations, quoi, parce qu'on est tellement stressé de ce qu'on va chanter que je pense qu'on se... On se focus vraiment sur ce qu'on peut donner et ce qu'on peut faire sur scène, quoi.
Alors, le dernier titre que vous avez chanté dans la finale, c'était une reprise de Radiohead, morceau oui. emblématique, Creep, version différente de l'original, évidemment, et pourtant extrêmement impressionnante, extrait. Standing ovation, le public est debout, votre coach était très impressionné, Florent Pagny. Vous dites que c'est pour lui que vous avez fait ça?
Franchement, oui, je l'ai fait parce que Florent, c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de décevoir, j'ai l'impression. Et surtout, je ne sais pas comment dire, j'avais vraiment envie qu'il soit heureux, quoi. Et je me suis dit, j'y vais, je vais tout donner. Parce que c'est difficile de le faire pour nous. Enfin, j'ai l'impression que c'est difficile d'avancer pour nous-mêmes dans la vie, quoi. On a du mal à se considérer. J'ai l'impression qu'on considère plus l'autre que nous, parfois. Et donc, c'est plus facile de le faire pour quelqu'un, j'ai l'impression.
Vous avez dit, oui, c'est ça, que c'est pour lui que vous faisiez. Je précise que vous n'avez pas gagné contre des mauvais. Parce que là, on est très impressionné de ce qu'on entend. Moi, j'étais assez bluffé. Pour donner une idée du niveau, je voudrais vous faire entendre le rappeur MB14. Il a fait un duo avec Soprano. Et puis, en fin de direct, il prend le micro, il improvise un numéro. Je vous laisse entendre, admirer le flow, la diction, la vitesse d'exécution.
J'ai le feu d'un kilo, je vais pas lâcher le guet dans noir et blanc comme un akino. Égal, le gun et des gaines, je rate, gaine, gaine, on est plusieurs dans ma tête et je sais pas lequel est lequel. Non, je peux pas les nickel, j'ai pas de mal à lesquels. Manakan, donc je les gagne, c'est carré comme un teken, je suis calme comme un teken, mais j'ai pas d'égal à ma gaine, mais la qualité d'un mec à l'équipe, j'en ai mes nickels.
Ah non, mais il est génial. MB, voilà. Il est génial. Il est génial. Vraiment, c'est une des mes plus belles rencontres sur cette émission. Et c'est vraiment. Mais de toute façon, là, comme vous disiez, c'est tout le monde était incroyable et tout le monde aurait pu gagner. C'est une version All Stars, donc c'est, ouais. C'est une version de l'émission avec des artistes, quoi.
Tout le monde aurait pu gagner, mais c'est pas l'école des fans. Tout le monde n'a pas gagné. Il y a qu'une gagnante, c'est Anne Silla. Elle est avec nous et on n'a pas parlé encore de votre avenir. C'est normal, on peut pas tout dire d'un coup. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Anne Silla, c'est elle qui a remporté la première édition, les 10 ans de The Voice. C'était l'édition The Voice All Star. Émission emblématique qui a fait découvrir rien moins que Louane, Amir, Slimane, Kenji Girac, Claudio Capéo, Jérémy Frérot. Et maintenant, vous, votre vie va changer?
Ma vie change déjà. Elle a déjà beaucoup changé jusque-là, mais je reconnais que depuis, rien que depuis samedi soir, ça va très vite. Et je ne m'y attendais pas du tout. Après, c'est quelque chose que je considère comme une chance, donc j'en profite au maximum.
Ça a été quoi, votre dimanche? C'est une question sérieuse.
Quand... Ah, le dimanche, alors, je vais vous dire la vérité. Dimanche matin, c'était promo. L'après-midi, j'ai aidé ma petite sœur à déménager. Mais j'étais vraiment fatiguée, donc je déménageais un petit peu avec les yeux fermés. Et puis ensuite, je me suis couchée.
Vous avez vu les audiences de l'émission?
Oui, c'est bien. Ça. En plus, oui. Il paraît que c'était en hausse et tout ça.
Oui, c'était en hausse, c'était vraiment pas mal. En préparant cet entretien, j'ai découvert quelque chose. Plutôt un mythe s'est écroulé. Ah. C'est une confidence que vous avez faite sur Melty. Les buzzers ne font aucun bruit.
Ah oui, effectivement, c'est vrai. En fait, les buzzers ne font pas de bruit sur le moment, parce que sinon, ça nous déconcentrerait beaucoup trop, parce qu'on est dans notre chanson et qu'on a les ears. Donc du coup, sur le coup, je crois que ça ne fait pas de bruit. Et par contre, ils les rajoutent au montage.
Voilà. Mais donc, vous ne voyez pas les fauteuils tourner?
Non, et en plus, on ne sait pas. C'est-à-dire que même si on voit au bout d'un moment qu'il se passe quelque chose, on doit regarder face caméra. Et donc, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui est en train de se passer. Donc moi, je me souviens qu'à mon audition à l'aveugle, je me disais juste « Ah, il se passe quelque chose là-bas au loin ». Mais on est quand même, enfin, y a tellement de projecteurs sur nous qu'on met longtemps à comprendre. Et c'est souvent dans les auditions à l'aveugle, on voit la personne, enfin, on voit la personne, le talent quoi, en question qui regarde pour être sûr.
J'ai appris ça alors. Comment vous avez vécu la dernière émission? Alors il faut dire que l'émission qu'on a vue samedi soir a été enregistrée le vendredi. Vous avez vécu comment ce vendredi, cette émission de compète?
J'ai l'impression qu'on en a vraiment tous profité parce que comme on s'est dit qu'on n'allait pas avoir le nom du gagnant le soir même, on l'a vraiment pris comme un spectacle et donc on était presque en concert. On s'est dit on va foncer. De toute façon, ce soir on ne saura rien, donc on le prend comme un concert, on profite à fond et on donne tout ce qu'on peut donner. Et j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus... si je peux dire, en mode lâcher prise, quoi, que si on avait eu les réponses vendredi soir.
Alors, le mode lâcher prise, l'expression est bien choisie. Il y a eu des moments de rire aussi, même de fou rire, quand par exemple Jennifer, qui fait partie du jury, découvre Nikos Aliagas et un candidat, il s'appelle Terence, les deux sont en kilt.
Aujourd'hui, c'est un artiste à part entière. Et même si Jennifer est morte de rire à cause de nos jupes, une chose est sûre, il fera son chemin avec ou sans vos gaz.
Ça vous fait encore rire, moi aussi.
Ah oui, mais ça me fait rire. Et parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment communicatif. Et je crois que Jennifer, vraiment, n'était pas prête. Et Nikos avait fait ce pari avec Terence. Mais personne ne s'est dit qu'il allait le réaliser, surtout sur un direct et surtout sur une finale All-Stars. Et Nikos, il est tellement incroyable qu'il est capable de ça. Et c'est génial. C'est génial. Bravo, Nikos.
L'actu pour vous, c'est pas fini. Il y a un album qui sort, il sort pas. Alors je me dis, il sort le 29 octobre. Voilà, c'est loin. Non, le 29 octobre, c'est vendredi.
Oui, j'ai de la chance. Ça sort vraiment. J'ai vraiment de la chance parce que là, on peut dire que pour une fois, les étoiles sont alignées. C'est rare que ça m'arrive, mais là, c'est incroyable. Je suis hyper reconnaissante de sortir cet album.
Vous l'avez travaillé pendant The Voice ? Parce qu'il faut dire que les premières auditions, c'était il y a 11 mois, c'est ça ?
Oui, en fait, j'ai passé les deux premières auditions, donc l'audition à l'aveugle et les battles. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, je prépare mon album parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, je serai exposée médiatiquement à un moment pour l'audition à l'aveugle. Donc, je vais profiter de ça parce qu'à l'époque, j'étais seule, j'avais pas de label. Donc, je me suis dit, ben, comme je suis indépendante et que j'ai pas énormément les moyens de me faire de la promotion, je prendrai l'émission de télévision comme ça. Et puis j'ai préparé l'album, là je l'ai enregistré finalement tout l'été, j'ai finalement trouvé un label et puis on le sort bientôt et je suis vraiment vraiment super contente.
Ils vont pas le regretter au label de vous avoir dit oui. Il y a la chanson Je reviens te chercher, c'était la chanson avec laquelle vous aviez cueilli, on avait passé ce son ici dans Culture Média, Florent Pagny, qui avait reconnu votre voix en 4 syllabes seulement, c'est pour ça qu'elle fait partie de l'album, elle était prévue de toute façon ou pas?
J'avais vraiment envie de la mettre dans l'album parce que c'est une chanson que j'affectionne particulièrement, mais aussi elle a reçu tellement un bel accueil quand j'ai fait l'émission que ça m'a vraiment touchée en fait. C'est-à-dire qu'elle est passée à un moment dans un top chanson, mais avec autour que des chansons urbaines, des chansons de rap. C'est-à-dire que c'est comme si la chanson française avait eu une petite chance de survivre et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et voilà, c'est une chanson magnifique de Gilbert Bécaud.
Alors j'ai pu entendre l'album en avant-première, il faut en choisir une, j'ai une préférence, c'est la chanson La 3, je précise. J'ai attendu le printemps, chanson très personnelle, parce que j'ai découvert ensuite qu'elle avait été écrite, parce que vous êtes entouré parfois pour faire un album, celle-ci a été écrite et composée par vous, c'est bien ça, vous et vous seul. J'ai attendu le printemps, Anne Silla, on écoute le début.
Saison entière, 6 pieds sous terre, me suis enfermée. J'avais envie d'un peu de lui, me suis affamée. Oh, il a la crié famine dans le lit de ma voisine et mon hiver se termine. J'ai attendu le printemps, mais la fourmi a foutu le camp.
Et on ne peut pas raconter la fin du morceau, mais ça part encore dans un autre univers.
Oui, en fait, j'adore ce morceau et ça me fait vraiment très plaisir que vous l'aimiez aussi parce que c'est mon préféré de l'album. En fait, c'est une chanson que j'ai composée pendant le confinement. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis vraiment imaginé cette scène un peu de la cigale et la fourmi, mais dans une histoire d'amour un peu bancale. Et ce qui me faisait rire, c'était de réussir, enfin de tenter en tout cas de pouvoir mélanger tous les styles que j'aime. Et donc il y a vraiment le côté pop, chanson française, mais aussi un petit peu de jazz à un moment qui arrive. J'en profitais pour faire un petit hommage aussi à Sting et Englishman in New York. Donc c'est un peu, c'est une chanson qui représente tout ce que j'adore, quoi.
Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Anne-Sylla. Je rappelle, vous êtes la grande gagnante de The Voice All Star. C'était samedi soir sur TF1 et on peut le voir évidemment en replay. Ça fait beaucoup, beaucoup d'audience. La Catch TV, surtout sur des grosses émissions comme ça, emblématiques. Et puis, la sortie de ce nouvel album, il s'appelle À nos cœurs. Il sortira vendredi. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
En direct, Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h, les télescopages de Bruno Donnet qui a regardé un documentaire signé Bernie Bonvoisin, le gars de Trust, sur l'antenne de la chaîne parlementaire. Et puis notre invité, c'est l'écrivain Jean-Christophe Ruffin pour son nouveau roman Les Flammes de Pierre. Notre indispensable Stéphanie Loire nous parle de Angèle, la chanteuse belge qui revient à Bruxelles. Et puis l'imitateur humoriste Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. Quel programme, à tout de suite sur Europe.